ぽかぴんぽかぴん、ぽかぴん。
Bonsoir, ravi de vous retrouver une fois de plus pour suivre la tribune de la presse ce vendredi 5 septembre 2008. Des affrontements sont signalés depuis tôt ce vendredi à Katirou, situé à une centaine de kilomètres au nord de Goma, à la limite entre les territoires de Masisi et Rukuru, au nord Kivu, entre les Farbete et les éléments du CNDP. Tous les 17 corps des passagers de l'avion accidenté lundi soir de la compagnie Air Serve sont arrivés à l'aéroport de Kavumu, à Bukavu au sud Kivu. Rentrée scolaire timide le 1er septembre dernier à travers les établissements scolaires de la RDC. Ce sont les sujets que nous allons aborder ce soir avec les confrères. Il s'agit de Benoît Kambéré, rédacteur en chef du journal L'Écho des Grands Lacs, paraissant à Kinshasa et distribué à l'est du pays. Joachim Diana Gikoupa, il est journaliste au desk politique du journal L'Avenir paraissant également à Kinshasa, et Henri Gérard Engébé, il est rédacteur en chef de la RTNC Mbandaka dans la province de l'Équateur. Bienvenue à tous. Les manchettes des quotidiens parus à Kinshasa cette semaine ont fait état de la situation sécuritaire au Nord Kivu, du crash du petit porteur Air Serve à Bukavu, ainsi que de la rentrée scolaire. Notre confrère Guy Maté a lu ces journaux pour vous.
Violation de l'accord de paix, Moscou et Washington resserrent les taux autour de Kunda, titre le palmarès du jeudi 4 septembre 2008. D'après le quotidien de l'avenue du Livre dans la commune de la Gombe à Kinshasa, le gouvernement russe n'y est pas allé par les deux de la cuillère. C'est pour obliger le général Déchu Kunda à respecter ses engagements dans l'accord de paix de Goma. Par ailleurs, poursuit ce même journal, la Russie reconnaît à la RDC les droits de restaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue de son territoire. De son côté, le gouvernement américain n'a pas gardé silence. Pour preuve, le palmarès du même jeudi reprend les propos de la secrétaire d'État américaine adjointe chargée des questions africaines. Nous, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique, allons continuer à pousser Nkunda pour qu'il honore l'accord de paix qu'il a signé. Fin de citation. Crash d'un avion à Bukavu, la RVA interpellée, titre l'avenir dans sa publication du mercredi 3 septembre 2008. Selon ce quotidien, la régie des voies aériennes RVA en sigle a démontré ses défaillances. Des défaillances techniques qui ne manqueront pas de surgir au regard de la détection d'éventuelles pannes qui auraient conduit à cet accident, soutient ce quotidien. Dès la perte du contrôle de l'appareil qui s'approchait de l'aéroport de Kavumu à Bukavu, l'avenir affirme qu'il aura fallu attendre l'intervention de la MONUC pour repérer l'épave de l'appareil à quelques 15 km de l'aéroport. FSP, le salaire des enseignants, notamment payé, titre le potentiel d'apparition de lundi 1er septembre 2008. Le quotidien de l'avenue des Bas-Congo révèle que les salaires des enseignants du secteur public du mois d'août ont été payés dans la nuit de samedi à dimanche. Malheureusement, pour ceux des potentiels, à en croire les bénéficiaires de ce salaire, aucune amélioration n'a été enregistrée dans le sens de rencontrer les préoccupations des enseignants, conclut ce journal.
Merci Guy Maté, nous l'avons annoncé dans notre introduction. Des affrontements sont signalés depuis tôt ce vendredi à Kakirou, situé à une centaine de kilomètres au nord de Goma, à la limite entre les territoires de Masisi et Rutshuru, entre les FARDC et les éléments du CNDP. Nous sommes là dans la province du Nord Kivu. Selon le gouverneur de province du Nord Kivu, Julien Paluku, les positions des FARDC ont été attaquées par les insurgés de Laurent Kunda. Julien Paluku déplore cette reprise des affrontements et appelle les population de cette zone au calme. Le point de la situation avec notre penseur Sifamagou.
Selon le gouverneur du Nord Kivu, les troupes du CNDP ont lancé leur attaque à 4h du matin sur les positions de la 7e brigade intégrée basée à Katirou, en secteur de Mousseau, où les combats se poursuivent encore dans la mi-journée. Le gouverneur Julien Paluku déplore cette reprise des affrontements qui intervient un jour seulement après les assurances faites par le CNDP à la facilitation internationale de cesser les hostilités. Julien Paluku appelle les populations de Mousseau et Katirou au calme et d'élever toutes les barricades qui entravent le mouvement des casques bleus de la MONUC.
D'abord aux populations, c'est de leur demander de continuer à faire confiance aux institutions de la République, de croire toujours à la paix, parce qu'il n'y a que la paix qui va aider les uns et les autres à regagner leur champ, à regagner leur milieu d'origine. Je voudrais également lancer un message aux groupes armés et leur dire que le temps de la guerre normalement est terminé et aujourd'hui il nous faut ensemble bâtir la paix pour cette province.
Un autre front existe à Kirotier, au sud de Massissi, près de 45 km de Goma, où l'on signale une panique générale depuis hier à la suite d'un déploiement d'une unité des FARDC de la 14e brigade intégrée dans cette région sous contrôle des Maïmaï Cobra. La population garde d'une part un mauvais souvenir de cette brigade et d'autre part ne voit pas d'un bon œil la proximité des trois forces en présence, à savoir le CNDP, les Maïmaï Cobra et les FARDC, distants des quelques kilomètres les unes des autres. Goma, Sifamaguru, Radio Okapi.
Merci Sifamaguru. Bonsoir Benoît Kambéré.
Bonsoir Diroge.
Nous l'avons signalé au début, vous êtes rédacteur en chef du journal L'Écho des Grands Lacs, paraissant à Kinshasa, et ce journal est également distribué à l'est du pays. Quelle analyse faites-vous sur la reprise de combat au nord Kivu?
Ben, ça devient une rengaine, Guy Roger, c'est malheureux et c'est assez dommage. La reprise de combat aujourd'hui, c'est depuis une semaine que les combats ont repris dans cette partie de notre pays. Et c'est malheureux, c'est encore des populations entières qui sont sur les routes, c'est des champs qui sont dévastés, c'est des morts, c'est des désolations. Je ne sais pas en quelle langue il faut le dire, mais cette situation est tout simplement intolérable.
Intolérable. Bonsoir Joachim Diana Gikoupa.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste au desk politique du journal L'Avenir qui paraît dans la capitale congolaise. Comment expliquez-vous la répétition des combats alors qu'on a vu les belligérants signer l'accord de Goma?
Mais tout à fait. Nous, ça ne nous surprend pas. Mm-hmm. Et ce qui est arrivé, parce qu'en fait, on ne s'est jamais attaqué aux véritables causes de la guerre. Donc nous, ça ne surprend pas que les combats continuent parce que tout ce qu'on a fait comme effort, que ce soit la conférence de Goma, tout ça, pour nous, ça n'a jamais été une véritable solution au vrai problème. Vous allez vous rendre compte que...
Quelles sont, excusez-moi, les causes, les vraies causes, comme vous le dites?
J'en arrive. Vous savez que Kunda Batware, pour mener sa guerre sans instruction, il a parlé du rapatriement des FDLR comme un de préalable. Il fallait que les FDLR partent. Et vous vous rendez compte qu'il est en train de reprendre la guerre jusqu'au moment où la communauté internationale s'implique pour que les FDLR soient rapatriés. Donc, on n'a jamais été aussi actif dans le bâtiment de l'air comme maintenant. Et vous allez vous rendre compte que c'est pendant ce temps qu'il condamnatoire pratiquement ouvre des hostilités. Parce que son vrai problème, ce n'est pas de l'air, son problème est ailleurs.
Nous allons y arriver. Vous avez cité une seule cause. Nous allons revenir à vous. Bonsoir Henri-Gérard Engebé.
Bonsoir Guy Roger.
Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de la RTNC Mbandaka dans la province de l'Équateur. Quel commentaire faites-vous vu la situation qui prévaut aujourd'hui au Nord Kivu?
Guy Roger, il faut dire que ça fait très mal à tous les Congolais, que nous soyons à l'Équateur, mais la situation qui prévaut actuellement à l'est du pays nous préoccupe. Parce que nous avons créé qu'après les élections, qu'on ait installé les institutions légitimes et que la paix revienne au pays. Mais bien dommage, on constate que Kunga continue à s'entêter. Il y a récemment, vous avez parlé du programme Amani qui est intervenu au national des accords. On a cru que cela allait être respecté, mais on constate fort dommage que la guerre continue à l'est, les populations dans les roches, et les gens sont en train de mourir. Je dis, on ne meurt pas que des balles. Même ceux qui sont en train de mourir pour l'instant, il faut en tenir compte également. Je me dis, bon, peut-être que Kunda considère que les FARDC ne peuvent plus rien faire. Et vous avez suivi, j'ai suivi tout à l'heure, non, les positions des FARDC ont été attaquées. Et bien, donc, Kunda considère que les FARDC sont faibles, il peut faire comme il veut, c'est ainsi qu'il continue à s'occuper. Mais c'est bien dommage que cela arrive jusqu'à ces jours, pendant que nous avons fait des élections, les institutions sont là, on a pu ramener la paix au pays, mais voilà que Kunda continue à s'occuper.
Merci Henri-Gérard Engebé, Benoît Kambéré. Kunda continue à s'entêter alors qu'il y a un programme, le programme Amani, ça c'est selon Henri-Gérard Engebé, rédacteur en chef de la RTNC Mbandaka. Il y a le programme Amani qui semble faire du surplace.
Oui, le programme Amani semble faire du surplace pour plusieurs raisons. Lesquelles? Je voudrais d'abord en revenir, et toutes ces causes viennent de loin malheureusement, au fait que les hommes politiques congolais ne respectent pas leurs signatures. On peut aller très loin. Maintenant, on déplore tout ce qui se passe. J'ai entendu tout à l'heure les confrères dire que le fait que notre armée est ce qu'elle est aujourd'hui, ça fait qu'un général déchu peut narguer toute une armée nationale. Ça fait très très mal. Parmi les résolutions du dialogue intercongolais tenu à San City, il était question qu'on constitue une armée intégrée, restructurée, et avec toutes les compétences que compte notre pays. Malheureusement, cela n'a pas eu lieu et on est devenu presque la risée du monde, tout simplement parce qu'on ne peut pas donner une riposte qu'il faut à ce genre d'aventure.
C'est l'une des raisons que vous avez parlé.
Très, très sincèrement. On ne respecte pas sa parole, on signe des trucs qu'on est sûr, on est sûr qu'on ne va pas respecter, mais on signe quand même. Le fait que l'homme politique congolais, on a vu tous ces groupes armés, on peut en parler aujourd'hui, sont instrumentalisés à partir de Kinshasa. Tous ces groupes armés à gauche et à droite, on a dit que le général Laurent Kunda était déchu, mais on continue à le considérer comme un interlocuteur valable. Tout simplement, cela fait partie des faiblesses de l'État qui fait qu'on argue la République de cette façon. Tant qu'on n'a pas encore un État fort, tant qu'on n'a pas encore des institutions fortes qui peuvent imposer leur loi, pourquoi pas ne pas le dire, l'État doit imposer sa loi, mais malheureusement, on est devenu la risée de n'importe qui.
Merci Benoît Kambéré, Joachim Diana-Guikoupa, vous avez suivi Benoît qui dit le respect de la parole manque aux politiques congolais, il y a également l'instrumentalisation des groupes armés à partir de Kinshasa, ça c'est Benoît Kambéré qui le dit, êtes-vous de cet avis?
Mais tout à fait, comment on peut respecter une parole qui n'a pas été juste donnée? Je vais vous donner un exemple. Lorsqu'on va au dialogue intercongolais, on ne s'attendait pas à ce que les résultats du dialogue intercongolais aboutissent, parce qu'en fait, il y avait quoi? Il y avait une agression que la communauté internationale, à travers, je crois, la résolution 1, 2, 3, 4 de l'ONU, on a reconnu qu'effectivement, les Congos étaient agressés. Mais pour résoudre cette agression extérieure, on a demandé aux Congolais de dialoguer. Mais quelle solution pour en sortir? Rien du tout. C'est qu'on n'a jamais résolu les vrais problèmes de l'agression.
Quand vous parlez, on a demandé aux Congolais de dialoguer, le « on » là, c'est qui?
C'est la communauté internationale qui a parrainé l'accord de Lusaka. C'est ça l'accord de Lusaka. L'accord de Lusaka reconnaît qu'il y a l'agression et de l'autre côté, on dit pour résoudre cette agression, il faut que les Congolais dialoguent entre eux. Et nous savions qu'il n'y aura pas de solution parce que, en fait, le vrai problème est laissé à côté et les Congolais, c'est Kunda Batware. De qui devrait être le produit du dialogue intercongolais? Il a refusé de venir dans l'armée, la fameuse armée intégrée et restructurée. Il a refusé. Jusqu'où là? Il n'a jamais pris possible à cette place. Et il ne s'est jamais inscrit dans la logique. Il n'a jamais reconnu le pouvoir de Kinshasa depuis toujours.
Alors, si on avait un pouvoir fort.
Oui, Benoît, poursuivez rapidement, je passe la parole à Henri. Oui,
sincèrement, si on avait un pouvoir fort, on ne pouvait pas accepter de tels comportements.
Merci. Henri Gérard, un mot à placer par rapport aux différentes raisons évoquées par les confrères ici présents dans ce studio.
Oui, Benoît, bien dit tout à l'heure, il y a un pouvoir fort. Mon frère, il faut se dire les choses en face. Il ne faut pas avoir des honte pour reconnaître que nous n'avons pas un gouvernement fort. Je crois qu'on aurait terminé avec Kunda. Je me dis, si les forces armées peuvent vraiment faire en sorte que Kunda se taise, ils peuvent le faire, si elles étaient fortes. En ce moment, on ne connaîtrait pas ces choses ici. Mais voilà qu'on négocie tout ça, on tient et Amani, tout ça. Kunda ne respecte pas. Bon, qu'est-ce faire? Continuer à les dorloter, à les supplier. J'ai même suivi la communauté internationale, la Russie, les États-Unis qui mettent en garde Kunda, tout ça. Mais le gouvernement congolais, est-ce qu'il est à même de faire taire Kunda? C'est pratiquement impossible. C'est-à-dire que bon, Kunda s'en orgueille, il continue à se prélasser et faire de n'importe quoi à l'est du pays.
Merci Henri Gérard. Justement, dans le cadre du processus toujours de paix au Nord Kivu, après avoir rencontré les autorités nationales à Kinshasa, Kim Chopli, le représentant des États-Unis au sein de la facilitation internationale dans le processus Amani, a rencontré hier jeudi à Kiroliro, à une soixantaine de kilomètres à l'ouest de Goma, la direction politique et le haut commandement
militaire du Congrès national pour la défense du peuple, le CNDP, une démarche qui vise à réduire les tensions et les menaces de guerre, notamment dans les territoires de Rutshuru, où les FARDC et le CNDP se sont violemment affrontés le 28 août dernier, causant la mort d'au moins une personne. À cause de ces affrontements, le CNDP avait suspendu sa participation au processus Amani, qui en est actuellement à l'examen des modalités en vue du désengagement des troupes sur terrain. Pour le diplomate américain, après ces contacts, toutes les parties ont réaffirmé leur volonté de rester engagées dans le processus. Kim Sotli, on l'écoute, il est au micro de Jundal.
CNDP, like the other armed groups.
Le gouvernement, ainsi que le CNDP et les autres groupes armés, tous ont exprimé leur soutien au processus de Goma, au processus de paix, et donc c'est ce qui convient de souligner au début, c'est qu'ils sont tous engagés dans ce processus. Les affrontements qui ont eu lieu récemment à Rutshuru et qui nous préoccupent beaucoup découlent du fait que et les FARDC et le CNDP ont avancé au-delà des positions qu'ils tenaient auparavant dans différents endroits, et donc ni l'un ni l'autre ne sont en faute, mais que cela a été un engrenage qui a été provoqué des deux côtés. Ceci nous préoccupe énormément parce que nous craignons que les affrontements ne dérapent et n'augmentent, et ainsi nous souhaitons que la stabilité soit rétablie le plus rapidement possible.
Joachim Diana Gikupa, vous êtes journaliste au desk politique du journal L'Avenir, qui paraît à Kinshasa. Vous venez de suivre Tim Sotli. Et quel avenir peut-on accorder aujourd'hui quant sur le processus Amani, et qu'est-ce qu'il faut faire à ce stade pour que finalement la peur revienne dans le Nord Kivu avec des conséquences, vous le savez, plus d'un million de déplacés.
Donc ce que nous venons d'entendre comme déclaration est une réponse aux préoccupations de mes deux confrères. Dire qu'il n'y avait pas un gouvernement fort, il n'y avait pas une armée forte. Mais dans quel pays vous vous rendez compte que l'armée nationale n'a même pas le droit d'attaquer déjà les insurgés qui, de fait, déclenchent les hostilités, attaquent ces positions. Les FARDC devraient rester sur. J'ai même suivi la déclaration du chef de la Monique et de M. Alain Doss.
L'exemple de Moussaké, on a laissé l'armée nationale faire la guerre, on a eu le résultat, c'est pas ça la cause.
Mais je vous dis qu'on nous laisse, on l'a laissé dans quelles conditions, avec quel renseignement.
Allez-y.
Bon, j'ai dit que l'armée nationale n'a même pas parce que j'ai lu la déclaration que même celui qui riposte, il viole le cessez-le-feu. Donc ce qui veut dire que l'armée nationale, en ce qui concerne le Kivu, l'armée nationale est ligotée.
Donc vous pensez que... Oui, allez-y.
L'armée nationale est ligotée par ces processus, les différents processus. Et on nous endort. Tout ce que je viens de dire, c'est une déclaration endormante. Dans quel sens? Je vais m'expliquer comme des temps de parole. C'est juste ici. Il y a eu tellement de processus. Ce processus, c'est une façon d'endormir la population congolaise, d'endormir les autorités congolaises. Mais le vrai problème se trouve ailleurs. Et se trouve ailleurs où? C'est que la situation au Kivu va pourrir jusqu'à un jour. On dira non, cette situation, pourquoi? Il faut finalement s'en débarrasser. C'est nous deviendrons la journée.
Brièvement, vous privilégiez et vous pensez à l'option militaire, la force.
Mais puisqu'il y a déjà la force, je vous dis ceci, si on n'avait pas utilisé la force, tout ça, ça serait tombé, serait pris par le RCD. À ce moment-là, il y a eu des forces qui sont venues aider le Congo, les forces de la SADC, avec les Zimbabwe, tout ça. Mais après, on a dit non, que la SADC se retire et ils sont remplacés par la Monique. La Monique est là. Maintenant, quelle solution la Monique apporte à l'Est, justement? En remplacement des forces zimbabwéennes et autres qui avaient aidé le Congo à résister.
Merci Joachim Diana. Benoît Kambéré, rédacteur en chef du journal L'Écho des Grands Lacs, paraissant à Kinshasa. Joachim a parlé le processus endort finalement le gouvernement pour agir.
Écoutez, le processus, je ne sais pas, parce que bon, il fait un moment où ce pays était respecté. Il fait un moment où on avait une force de dissuasion qui faisait que n'importe quel petit pays voisin respectait la
République. Et la situation actuelle, bien entendu.
La situation actuelle est celle-là. Comment expliquer que quelqu'un peut narguer toute une nation à ce point? C'est tout simplement ça. Ou alors, on le fait exprès, moi je ne vois pas. Moi j'ai comme l'impression qu'on demande que la MONUC fasse le travail de notre armée. Non.
Il fut un moment où ce pays formait des Togolais, des Rwandais, des Burundais, des Tchadiens, où notre force de dissuasion, c'est uniquement notre force de dissuasion, faisait que les gens nous respectaient.
Est-ce que la communauté internationale forme suffisamment l'armée congolaise et le ravitaillement en matériel?
Est-ce que c'est le boulot de la communauté internationale?
Elle est impliquée dans
le processus pour faire force tampon. Et c'est écrit noir sur blanc.
Qu'est-ce qu'il faut faire alors dans ce cas?
Il faut avoir des institutions fortes, on l'a dit ici. Il faut avoir une armée forte, disciplinée, bien ravitaillée, au lieu d'un
processus et la situation perdue.
Le processus, ça doit commencer quelque part, dit Roger. Hein? Ce n'est pas en nous laissant en croisant les bras que cela va arriver. On a déjà parlé de Mushaki. On aurait aussi parlé de Nyandale. On a eu le même problème. Comment expliquer que chaque fois que au lieu de nous regarder, nous on doit regarder la communauté internationale. Il faudrait que nous fassions une introspection, qu'on se regarde entre nous, qu'on voit où sont les problèmes que nous pouvons résoudre. Il ne faut pas chaque fois jeter la couverture à la communauté internationale, et n'est pas là pour jouer le rôle des Congolais.
Mais c'est elle-même qui...
Je voulais dire, c'est joli. La RDC ne veut pas que la communauté internationale ne se lève pas. Mais c'est la communauté internationale qui, elle, s'interpose. Vous souviendrez, en ce qui concerne la formation de l'armée nationale, il était plus facile. Il y avait les FAC qui étaient en noyau existant de l'armée nationale. On reconnaît. Je ne parle pas des
espaces. Allez-y rapidement.
Nous avons rendu des appels à l'ESE, une armée, c'est des facs qui ont continué, et ce sont ces facs qui ont lutté avec. Mais à un moment, on a dit qu'il fallait former une armée nationale. Généralement, dans tous les pays qui sont faits, vous étiez en rébellion, bon, mais amenez vos troupes, on les intègre dans l'ONU, on a dit non, on efface tout, on départ à zéro et on recommence. Et maintenant, qui doit recommencer? Là, ce sont les Belges qui doivent former, là-bas, ce sont les Français, et vous voulez que le gouvernement prenne les chances, peut-être?
Pourquoi pas? Merci Joachim Diana. Henri Gérard, rapidement, nous allons terminer le premier thème. Benoît Cambéré a parlé d'introspection. Vous avez suivi Joachim sa réaction. Il dit, mais ici, toujours il faut parler de la communauté internationale. C'est elle qui pratiquement endort le gouvernement. Qu'en pensez-vous?
Nous devons nous assumer, dit Roger. C'est un problème réel.
Oui.
Je crois que si on avait une armée, l'option militaire aurait été la dernière tous les moments. Que l'on attaque Kunda, qu'on l'en finisse une fois pour toutes. Je crois que la population de l'Est retrouverait la paix. Mais dès lors que non, on a encore ce genre de programme à Mali, tout ceci, vous voyez ce qui se passe. Les gens ne meurent pas que des balles. Je l'ai dit au départ. Donc, attaquer Kunda, il y aura certainement des victimes innocentes, certes, mais on aura terminé cette histoire.
Merci.
Mais si on les laisse comme cela, on continuera. Il y a des rats, des gens qui meurent de faim, qui manquent de tout, qui sont en train de mourir. Ce sont également des humains. Je crois qu'il faut en tenir une fois pour toutes.
Qu'est-ce qu'il faut faire alors pour mettre fin à cette situation, selon vous?
Moi, je crois qu'il faut opter pour une option militaire. Je crois que recourir à des pays amis, si nos forces armées ne sont pas à même de mettre terme à Kunda, qu'on fasse recourir nos voisins. Hein. Je crois qu'il y a même le pacte sur la sécurité, la
vous stabilité. Vous pensez à quel pays quand vous parlez
de pays voisins? La RDC
dans
cette activité par Kunda.
Rapidement,
même les États-Unis d'Amérique pour aller en Irak ne sont pas nécessaires, ils ont eu des alliés. La RDC a des alliés, c'est comme ça, mais que la Commission internationale se retire.
Merci.
La RDC s'occupe elle-même de ça.
Rapidement, Benoît, en un mot pour boucler ce sujet.
Dès qu'on aura un État fort dans ce pays, on sera respecté par tout le monde.
Merci.
Même par des petits qui s'exercent à jouer avec les tétards.
Merci Benoît Cambéré. Nous passons donc au deuxième sujet de notre tribune de la presse de ce vendredi. Au sud Kivu, tous les 17 corps des passagers de l'avion accidenté lundi soir de la compagnie Air Serve sont déjà arrivés à l'aéroport de Kavumu à Bukavu, acheminés par un hélicoptère de la MONUC. Ces dépouilles sont accueillies par les responsables des agences onusiennes auxquelles travaillaient les victimes. ainsi que 3 médecins chargés d'identifier formellement les corps. Selon les sources onusiennes, ce corps sont actuellement stockés dans une chambre froide à Kavumu même, d'où ils devront être envoyés dans leurs familles respectives, notamment à Kinshasa, Kisangani et Bukavu pour les victimes congolaises. Rappelons que ce petit avion de la compagnie Air Serve s'était écrasé sur le mont Kaouzi, non loin de Bukavu, suite au mauvais temps. Des 17 corps à bord, dont 2 membres de l'équipage, personne n'a survécu. Henri Gérard Egebe, vous êtes rédacteur en chef de la RTNC Mbandaka. Nous déplorons tout ce drame et nous compatissons avec les familles éprouvées. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle?
Beaucoup d'émotions et d'amertume parce que nous ne sommes pas au premier cas de crash. Récemment encore à Bukavu, on a suivi un avion de Wabora Airways qui s'est écrasé également. Et des crashs, il y en a plusieurs fois comme ça dans notre pays. Mais nous pensons que l'aéronautique civile doit voir un peu pourquoi ces cercueils volants toujours dans l'espace aérien congolais et qui causent beaucoup de morts. Et surtout ici à Mbandaka, ça fait beaucoup de peine parce qu'il y avait un professeur qui était à bord, qui est décédé malheureusement, le professeur Assani, qui était dernièrement ici à Mbandaka. Il est venu animer un séminaire de formation à l'attention des responsables des partis politiques sur le financement des partis politiques et la mobilisation des fonds. Donc ça nous a fait beaucoup de peine parce qu'on l'a connu. Il a même formé le personnel de l'Assemblée provinciale. Et à ce niveau, ici, le bureau du PNUD a même ouvert un livre de condoléances pour tous ceux qui l'ont connu. Donc, c'est avec beaucoup de consternation que nous avons pris cette triste nouvelle.
Merci, Henri Gérard Guébé. Joachim Diana Ndikoupa, journaliste au desk politique du journal L'Avenir qui paraît à Kinshasa. Comment avez-vous traité, quels commentaires avez-vous fait après avoir appris ce crash?
Tout à fait, ce crash nous a beaucoup attristés, surtout qu'il y a eu dans l'avion quelqu'un qui nous était très proche, il y a eu la fille d'un ami, que tous les Kinois connaissent très bien, Kindo Kindo, qui en sait déjà de recul, sa fille était dans l'avion, travaillait à Kindo, ça me semble beaucoup touché. Et bon, dommage, hein, je connais très bien cet avion, pour y avoir déjà voyagé, en petit avion qui ne pouvait pas résister au mauvais temps, à une tempête par exemple, parce que dans cet avion, quand j'ai monté, on ne pouvait pas mettre les deux à la fois debout. S'il y a un debout, l'autre va s'asseoir. Vraiment, un petit avion là, où on entre pratiquement courbé. Alors, je comprends que ce n'est même pas question de la RVA, ce n'est même pas question de l'aéronautique civile, mais c'est vraiment une catastrophe naturelle parce que cet avion là est tellement léger qu'il ne pouvait pas résister à une tempête, s'il y a une grande tempête là. Vraiment, on n'y peut rien. Ça arrive, on regrette bien, mais c'est dommage que ça soit comme une espèce de signe indien qui poursuit les convois avec cet accident d'avion.
Cette fois-ci, ce n'est pas un Antonov.
Ce n'est pas un Antonov, malheureusement. Et puis, ce n'est pas non plus le problème d'avion. Et c'était un avion très sécurisé, cet avion. Un avion très fiable. C'est pas en cercueil volant ou quoi. C'est un avion très fiable, je crois, sous le contrôle international. Mais ce qui est arrivé, c'est que sa qualité, c'est ton petit avion léger et ça ne pourrait pas résister à la tempête.
Merci, Joachim. Benoît Cambéré, une réaction par rapport à...
Je voudrais d'abord dire Roger, saluer la mémoire de toutes ces personnes, de ces 17 personnes qui sont décédées dans cet avion.
Je vous en prie.
Et très sincèrement, saluer et bien sûr m'incliner sur la mémoire des 3 amis qui étaient là-dedans. Je parle de Denis Watou, qui est un ancien journaliste à La Référence Plus. Je parle de notre consoeur Noël Kibola, qui est une ancienne du Potentiel, et de notre confrère Shindano, qui, pour la cause de la paix, pour la cause de la protection des populations et pour la cause du développement de ce pays, ont trouvé la mort. Je voudrais également penser à la famille du professeur Assani. Denis Watoum, dont nous sommes en train de pleurer aujourd'hui, est le jeune frère d'un ami aussi, qui est M. Kakoura Baudouin. Vraiment, je voudrais très sincèrement, à mon nom propre, en celui de ma famille, en celui de la corporation que je dirige, qui est l'Association des Jeunesse pour la Paix, m'incliner et présenter les sincères condoléances aux familles de nos confrères et à leurs organes respectifs. Vraiment, c'est avec beaucoup d'émotion que ces êtres chers nous ont quittés.
Merci, Benoît Cambéré. Henri Gérard, vous avez suivi Joachim, mais selon les informations à notre possession, au fait, il s'agit d'une catastrophe naturelle de mauvais temps. Donc, on n'a pas à parler de l'RVA et du secteur aérien congolais.
Bon, je n'avais pas toutes les informations avec moi, mais je crois que c'est certainement regrettable. Vous savez que c'était un accident naturel, c'est arrivé, mais nous déplorons, parce qu'en RDC, on a connu plusieurs crashs comme ça. Pourquoi je trouve que c'est pas bien. Des éminentes personnalités, le professeur là, dit qu'il était en Europe, il est venu ici pour la cause de la nation, et voilà qu'il vient trouver la mort comme ça. Bon, ça fait très mal pour les familles.
Et Joachim, peut-être une interpellation aussi pour ceux qui gèrent cette espace, malgré qu'il s'agit d'une catastrophe naturelle.
Justement, c'est-à-dire que pourquoi il y a eu cet avion? S'il y a eu ce petit avion-là, la communauté internationale, pour résoudre le problème des déplacements des agents humanitaires d'un endroit à un autre, c'est parce qu'en fait, le secteur aviation nationale ne fonctionne pratiquement pas. L'AC n'existe pratiquement pas dans d'autres pays. S'il y avait une compagnie nationale forte qui pouvait relier tout cela, on éviterait des petits avions-là pour faire de grandes distances de Kinshasa là-bas. Pouvoir aller tomber dans la tempête. Ce genre d'avions, on les utilise que lorsqu'on a bien calculé le temps, on se met dans un pays aussi vaste comme le nôtre, 2000 km. Bon, on peut avoir calculé le temps quand on est dans Kinshasa, mais on ne sait pas que le temps va se détériorer juste à 15 km à vol d'oiseau de Bukavu. Donc, il faut renforcer le réseau national, c'est-à-dire la compagnie nationale là qui doit être ressuscitée, réanimée, tout ça.
Merci Joachim. Benoît, il faut renforcer le réseau national parce que bon, c'est une des conséquences de la gestion justement du secteur aérien congolais.
Moi je parlerai de la mauvaise gouvernance tout simplement. Et là je crois que je vais emboucher la trompette de Joachim tout à l'heure. Effectivement, on avait dans ce pays, malheureusement, hein, je suis obligé chaque fois de revenir dans le passé, une grande compagnie qui s'appelait à un moment Air Zaïre, qui avait des avions fiables, qui faisait le tour du pays, qui desservait même les plus petits aéroports de ce pays. Mais ça fait des années qu'on a mis une croix sur cette grande compagnie. C'est vrai, à quelques mètres d'ici, il y a les bâtiments de cette compagnie qui sont là. On l'a appelé LAC, d'ailleurs, ce n'est pas par euphémisme. On dit même que c'est tombé dans le lac, c'est dommage. Mais il faudrait qu'on redynamise, que ce pays se réveille, parce que ce pays était grand. Ce pays avait une grande compagnie aérienne qui avait des avions fiables et qui allaient partout dans notre pays, qui est, vous le savez bien, un sous-continent.
Merci Benoît Cambéré. Nous passons donc au troisième thème de notre tribune de la presse. Rentrée scolaire timide le 1er septembre dernier à travers les écoles du pays. Rappelons que les enseignants des établissements publics ont décidé de boycotter ce rendez-vous tant que leurs revendications ne seront pas prises en compte. Quelle est l'ambiance qui a régné à travers les écoles, certaines écoles de la ville de Kinshasa? Le 1er septembre, notre confrère Berry Luchaka a fait la ronde de certains établissements scolaires suivants.
C'est le premier jour de la rentrée scolaire et comme d'habitude, pas d'engouement, comme l'a souligné le vice-ministre à l'enseignement primaire, secondaire et professionnel.
C'est vrai que c'est le début, c'est le premier jour, la rentrée est timide, il y a des parents qui ont peut-être hésité. Et vous savez, généralement, le premier jour, on n'a pas les 100% d'effectifs à l'école.
Si cette façon de voir les choses n'inquiète pas le vice-ministre, les parents, eux, sont très inquiets, car, selon eux, que les enfants aillent à l'école en bleu-blanc, c'est une chose, mais qu'ils étudient, c'est ce qui va confirmer effectivement que cette rentrée scolaire a bel et bien eu lieu.
Nous avons accompagné les enfants à l'école parce qu'il y avait la rentrée. Les enfants ont été accueillis et orientés dans les classes respectives. Mais le problème qu'on s'est posé, c'était de savoir si les cours allaient avoir lieu. Bon, parce que bon, les amener à l'école et faire la rentrée, c'est une chose. Mais bon, enseigner, c'est aussi une autre chose. Il semble qu'ils soient rentrés dans les classes. Mais après, bon, les enseignants sont rentrés juste pour se présenter et donner le reste. Mais les cours, en fait, n'ont pas débuté.
Les enseignants rencontrés estiment que les cours ne peuvent pas répondre aussi longtemps que le gouvernement. Le gouvernement n'aura pas satisfait les revendications sociales qui sont bien stipulées dans le cahier des charges.
Henri Gérard Eguébé, vous êtes rédacteur en chef de la RTNC Mbandaka. Quel était le constat que vous avez fait le 1er septembre en ce qui concerne la rentrée scolaire en Mbandaka?
Guy Roger, disons que la rentrée scolaire n'a pas eu lieu en Mbandaka. Parce que nous avons sillonné la ville et tous les établissements scolaires en dehors de la seule école d'application de l'ISP EDAP qui avait ouvert les portes. Toutes les écoles, on avait trouvé juste les directeurs ou les préfets. aucun enseignant et ils n'avaient pas d'élèves. Donc, jusqu'à présent, ils sont décidés comme ça, ils ne rentrent pas si longtemps que leur réclamation repose sur l'uniformisation des salaires avec leurs collègues de tout ça. Et donc, jusqu'à ce jour, nous sommes en train de parler ce vendredi, donc la semaine entière, il n'y a que des dates. Le code d'application du UXP qui s'est dit être régi par un statut de l'enseignement supérieur, bon, ils ne sont pas concernés par la grève, mais toutes les écoles, même le privé, ils n'ont pas encore repris, et toutes les écoles, et c'est la première fois d'ailleurs que les trois syndicats s'attendent, parce qu'autrefois, les années antérieures, c'était CIECO et SINECAP qui avaient décidé de boycotter la rentrée, mais Cosel acceptait de reprendre. Mais cette fois-ci, tous les trois syndicats sont unanimes de ne pas reprendre la grève jusqu'à ce que les revendications soient honorées par le gouvernement.
Merci Henri Gérard. Joachim Diana Guikoupa, journaliste au desk politique du journal L'Avenir qui paraît à Kinshasa. Est-ce que le gouvernement a les moyens aujourd'hui de répondre favorablement à toutes les revendications des enseignants?
Là, on n'a même pas besoin de réfléchir pour répondre que le gouvernement n'a pas les moyens. Ou, avec un budget de plus ou moins 1 milliard, dont 600 millions vont au service de la dette extérieure, il ne reste que quelques 4 millions sur lesquels il faut faire toutes les dépenses. Il y a les militaires, il y a les fonctionnaires de l'État, il y a les policiers, il y a les enseignants.
Mais le budget n'est-il pas de 3 milliards de dollars?
Mais 3 milliards, mais la partie extérieure n'est jamais connue. Donc le budget national a toujours deux volets. Le volet
financement
des ressources intérieures, d'accord, mais les ressources extérieures ne sont jamais venues. Ça, les gens doivent le savoir. Est-ce que je dis donc avec ces dépenses qu'on doit faire avec les résiduels, c'est-à-dire qu'on a d'abord dépensé pour ça. La solution pour que le gouvernement ait une possibilité, je vais le dire, comme on le fait autrement. Le gouvernement peut demander aujourd'hui à l'hôtel de monnaie de faire tourner la planche à billets. On tourne la planche à billets, on paye. Et il y a un premier ministre qui l'avait fait à l'époque, Lunda Bululu. Et il a fait des enseignants des millionnaires. Et cela n'a duré que un mois. Parce que la planche à billets va ramener l'inflation et l'inflation va réduire le pouvoir d'achat. Et c'est comme si on n'avait rien touché. Les gens préféraient la situation d'avant. Donc le gouvernement doit être responsable dans le sens que amener les enseignants et les fonctionnaires de l'État à comprendre et à ce qu'on puisse aller là. Parce que aujourd'hui, je ne vois vraiment pas par où notre gouvernement peut tirer de l'argent pour résoudre, non pas seulement le problème, parce que s'il résout le problème des enseignants, les fonctionnaires vont utiliser, les militaires, tout le monde veut, tout le monde est dans de mauvaises conditions de travail, tout le monde veut voir sa situation améliorée.
On dit que le gouvernement n'a pas de moyens, mais on a suivi le ministre, après le premier ministre, parler des détournements, un milliard, et cet argent-là.
Et justement, lorsque il y a mauvaise foi, les gens, mais c'est parce que lorsqu'on parle d'un milliard, ce n'est pas de l'argent qui était quelque part dans une caisse qu'on a volée en une fois. Lorsque vous posez la question au ministre, près du premier ministre, il vous dira que c'est de l'argent qu'on a détourné ou bien qu'on a manqué à gagner, qu'on a retourné pendant, depuis 2003. Donc, c'était échelonné à plusieurs années qui a pris 200, j'ai pris 1000, ainsi de suite. Ce n'était pas de l'argent bloqué quelque part.
Merci, Joachim Niana. Benoît Cambéré, est-ce que les enseignants ne peuvent pas reprendre justement les cours et continuer à négocier, à se concerter avec le gouvernement?
On précise
les enseignants du CIECO et du SINECAP.
Au risque de te décevoir, Guy Roger, il y a quelque part un problème avec notre gouvernement.
Okay.
On a l'impression que on doit forcer la main au gouvernement pour qu'il arrive à faire quelque chose. C'est ce qui est dommage. C'est vrai, Joachim m'a tout à l'heure parlé de notre budget qui n'est que de 3 milliards, effectivement. C'est une honte même pour notre pays de n'avoir qu'un budget de 3 milliards. Il y a des pays autrement plus petits et moins nantis que nous qui ont des budgets annuels respectables.
Qu'est-ce qui manque selon vous pour que la RDC ait un budget conséquent?
Volonté politique, tout simplement. Parce que tout à l'heure, tu as si bien donné l'exemple du milliard qui se serait volatilisé de manque à gagner. Est-ce que tu as entendu un seul de ces gars qui a été arrêté ou tout simplement ramené à l'ordre pour qu'il ramène cet argent? Non, il y a de l'argent dans ce pays. Et si on veut
on peut faire quelque chose. Mais apparemment, il n'y a pas de volonté politique, parce qu'on constate que de l'argent est dépensé à autre chose que à ce pourquoi. Parce que pour ne répondre que le cas des enseignants, on peut parler des médecins aussi. Il faut que les médecins arrivent à faire une grève sèche pour qu'on s'occupe de leurs problèmes. Est-ce que les enseignants doivent chaque fois... est-ce que le problème des enseignants date d'aujourd'hui? C'est un problème qui, ça fait 4 ans, ça fait 10 ans qu'on parle de problème. S'il y avait une volonté politique, on aurait pu résoudre palier par palier ce problème, on n'en arriverait pas à ça. Est-ce que pour donner le même salaire à Kinshasa et à l'intérieur, il faut le rappeler chaque année?
Merci Benoît Cambéré. Et Henri Gérard, est-ce que vous pensez, vous, comme Benoît, qui dit qu'il y a manque de volonté politique de la part du gouvernement et les enseignants aussi, ne peuvent-ils pas être réalistes pour savoir que à l'heure actuelle, le gouvernement n'est pas en mesure de répondre favorablement à leurs revendications? Il faudrait peut-être continuer à travailler et puis se concerter avec le gouvernement.
Avant de répondre à votre question, Guy Roger, je voulais juste ajouter que pour la rentrée scolaire, le gouverneur de la province avait même réuni le gestionnaire et lancé un ultimatum à tous les enseignants que ce vendredi, s'ils ne reprennent pas, ils passeraient dans les écoles et que celui qui ne serait pas présent serait considéré comme déserteur.
Le gouverneur de la province de l'Équateur.
Le gouverneur de l'Équateur, mais malheureusement, bon, cet ultimatum n'a pas fait transiger, bouger les enseignants qui sont restés imperturbables. En fait, à propos de l'augmentation qui réclament les enseignants, il faut dire qu'il y a quand même de l'argent dans ce pays. C'est, je crois que c'est de la mauvaise foi. Pensez, par exemple, à ceux qui sont à l'intérieur, qui réclament à peine qu'on puisse les payer comme leurs collègues de Kinshasa. Est-ce que le gouvernement ne peut-il pas être en mesure de le faire? Pourquoi créer ce genre d'injustice entre les enseignants et une même corporation? Et puis, je crois que c'est comme cela qu'ils réclament. Mais je crois, le gouvernement, s'il avait de bonne volonté, il y a de cela, on bombarde des salaires en milliers de dollars, et les autres, ils sont payés en francs congolais de façon dérisoire. Ce sont des injustices. S'il y avait un peu de bonne volonté, le gouvernement est à même de maximiser des moyens et payer quand même convenablement les enseignants.
Joachim, comment faire pour que la bonne volonté revienne quand même au niveau du gouvernement pour voir les enseignants?
Vous savez, le discours que j'entends là, c'est un discours qui était valable à l'époque où un ministre, un gouvernement n'avait pas de compte à rendre à la population. Là, on pouvait se dire, nous n'avons pas de volonté, nous ne voulons rien faire parce que personne ne rendra de compte. Mais pour le moment, le peuple a obligé déjà le gouvernement d'avoir une volonté politique, ce qui veut dire quoi? Parce que vous avez un mandat, à la fin du mandat, vous devrez rendre compte. Et s'il y a quelqu'un, un premier ministre, un chef de l'État, qui veut rester au pouvoir, il est déjà obligé de résoudre le problème.
Parce qu'il y aura des sanctions.
Il y aura des sanctions. Il y aura des élections. Et donc, on ne doit pas tenir le discours aujourd'hui comme si c'était hier où les gens étaient venus au pouvoir comme ils veulent. Mais pour le moment, on est sous la seconde et sous le mandat et sous le contrôle. Après.
Non, à l'heure actuelle, il faut attendre jusqu'à ce qu'on puisse sanctionner jusqu'en 2011.
Non, c'est qui m'a
et accepter de soutenir.
Le problème, ce n'est pas c'est maintenant pour tout le monde et surtout nous qui sommes les leaders d'opinion, de comprendre que le problème d'argent, c'est un problème économique. L'économie, c'est une science. Ce n'est pas quelque chose où vous vous enfermez dans votre vie, j'accepte aujourd'hui, je vais payer autant. Non, ça, c'est de la démagogie. C'est du populisme. Ça ne se fera pas.
Merci, Joachim. Benoît Cambéry.
C'est justement cette démagogie-là et ce populisme. Parce que quand le gouvernement négocie avec les médecins, il sait qu'il n'a pas d'argent. Comment il peut promettre de donner ceci aux médecins et les médecins sont obligés d'aller jusqu'à une grève blanche pour qu'on trouve des solutions? Les enseignants du supérieur, on est arrivé jusqu'au bord de l'année blanche pour qu'on trouve des solutions. Les enseignants du primaire, comment on peut se dire gouvernement responsable si on a un cœur? Comment ne pas... Et il semble que l'éducation fait partie des 5 chantiers. On peut se poser des questions. Il faut attendre aussi que les Chinois viennent épauler le secteur de l'éducation ou le secteur de l'enseignement.
Non, soyons sérieux. Merci, Benoît. Henri Gérard Engeber, un dernier mot à placer. Nous sommes pratiquement à la fin de cette tribune.
La question de bonne volonté. Vous voyez, quand les médecins vont en grève, on trouve quand même un début de solution. Quand les enseignants du supérieur vont en grève, un début de solution. Mais je crois que les enseignants du
primaire et secondaire, leur conseiller également dit que non, pour ce vous aussi, il faudrait qu'on trouve un début de solution. Mais je pense que
il faut une action.
Encore de bonne volonté, ils peuvent s'attendre.
Merci. Rapidement, Joachim.
Oui. Placez juste un mot, un petit mot pour dire que vous pouvez avoir un peu d'argent pour acheter une parcelle, mais il y a un emploi que vous pouvez nous dire, bon, laissons d'abord la parcelle et nous payons à cet emploi qui fait
des choses.
Ce n'est pas une solution.
Merci.
Parce qu'on a trouvé la solution.
Merci. C'est par ici que s'achève cette tribune de la presse de ce vendredi 5 septembre 2008. Merci à Claude Quinza qui était à la réalisation. Merci également à Jean-Claude Tiala qui était à la mise en onde, à toute l'équipe, Titi Poutou, Guy Maté, Jean-Dédé Ogobani et Kelly Couté en leur nom. Guy Roger Niafala vous remercie et vous dit bonne soirée. I'm going to go to the hospital.